Chapitre 6. Lorsque la jeune fugitive ouvrit les yeux, elle se trouva dans la chambre principale du navire. Lucius était assis près de son lit et soutenait sa tête pâle et échevelée, tandis que dans un coin, tranquille et douce comme une gazelle, dormait la tigresse roulée sur un tapis de pourpre brodé d'or. Il était nuit et, à travers l'ouverture du plafond, on pouvait apercevoir le beau ciel bleu de l'Ionie tout parsemé d'étoiles. La Birème flottait si doucement qu'on eût dit un immense berceau que la mer complaisante balançait comme fait une nourrice de la couche de son enfant. Enfin, toute la nature assoupie était si calme et si pure qu'Actée fut tentée de croire un instant qu'elle avait fait un rêve et qu'elle reposait encore sous le voile virginal de ses jeunes années. Mais Lucius, attentif à son moindre mouvement, s'étant aperçu de son réveil, fit claquer ses doigts et aussitôt, une jeune et belle esclave entra, tenant à la main une baguette de cire brûlante, avec laquelle elle alluma la lampe d'or, soutenue par le candélabre de bronze qui s'élevait au pied du lit. Du moment où la jeune fille était entrée, l'œil d'Actée s'était fixé sur elle et l'avait suivie avec une attention croissante. C'est que cette esclave, qu'elle voyait pour la première fois, ne lui était cependant pas inconnue. Ses traits éveillaient même dans sa mémoire des souvenirs récents, et pourtant il lui était impossible d'appliquer un nom à ce jeune et mélancolique visage. Tant de pensées différentes se heurtaient dans la tête de la pauvre enfant que, ne pouvant emporter le poids, elle ferma les yeux et laissa retomber son front sur le coussin de son lit. Lucius, alors pensant qu'elle voulait dormir, fit signe à l'esclave de veiller sur son sommeil et sortit de la chambre. L'esclave, restée seule avec Actée, la regarda un instant avec une expression de tristesse indéfinissable, puis enfin, se couchant sur le tapis de pourpre où était étendu Phoebé, elle se fit un coussin de l'épaule de la tigresse qui, dérangée dans son sommeil, ouvrit à moitié un œil étincelant et féroce, mais qui, reconnaissant une amie, au lieu de la punir de tant d'audace, effleura deux ou trois fois sa main délicate du bout de sa langue sanguinolente et se recoucha avec nonchalance, poussant un soupir qui ressemblait à un rugissement. En ce moment, une harmonie délicieuse s'éleva des flancs du navire. C'était ce même cœur qu'Actée avait déjà entendu lorsque la Birème aborda au port de Corinthe. Mais cette fois, la solitude et le silence de la nuit lui donnaient plus de charme et plus de mystère encore. Bientôt, aux voix réunies succéda une seule voix. Lucius chantait une prière à Neptune, et Actée reconnut ces sons vibrants qui, la veille au théâtre, avaient été réveillés les cordes les plus secrètes de son âme. C'étaient des accents si sonores et si mélodieux qu'on eût pu croire que les sirènes du cap Palinur étaient venues au-devant du vaisseau du Nouvel Ulysse. Actée, soumise tout entière à la puissance de cette musique enchantée, ouvrit ses paupières lassées et l'œil fixé sur les étoiles du ciel. Elle oublia peu à peu ses remords et ses douceurs pour ne plus penser qu'à son amour. Depuis longtemps déjà, les dernières vibrations de la lyre et les dernières cadences de la voix s'étaient éteintes lentement, et comme emportées sur les ailes des génies de l'air, qu'Actée, tout entière à cette mélodie, écoutait encore. Enfin, elle baissa les yeux, et pour la seconde fois, son regard rencontra celui de la jeune fille. Comme sa maîtresse, l'esclave semblait être sous l'empire d'un charme. Enfin, les regards des deux femmes se croisèrent, et plus que jamais, Actée fut convaincue que ce n'était pas la première fois que cet œil triste laissait tomber sur elle son rayon lumineux et rapide. Actée fit un signe de la main, l'esclave se leva, et tous deux restèrent un instant sans parler, mais enfin, Actée rompit la première le silence. « Quel est ton nom, jeune fille ?» lui dit-elle. « Sabina, répondit l'esclave. Et ce seul mot fit tressaillir celle qui l'interrogeait, car, ainsi que le visage, cette voix ne lui était pas étrangère. Cependant, le nom qu'elle avait prononcé n'éveillait en elle aucun souvenir. « Quelle est ta patrie ?» je continua à acter. « Oh, je l'ai quittée si jeune que je n'en ai pas. Et quel est ton maître ?»« Hier, j'étais à Lucius, aujourd'hui je suis à Acté. Tu lui appartiens depuis longtemps ?»« Depuis que je le connais. Et sans doute tu lui es dévoué, comme la fille à son père. Alors viens t'asseoir près de moi et parlons de lui. » Sabina obéit, mais avec une répugnance visible. Acté, attribuant cette hésitation à la crainte, lui prit la main pour la rassurer. La main de l'esclave était froide comme le marbre. Cependant, cédant au mouvement d'attraction de sa maîtresse, elle se laissa plutôt tomber qu'elle ne s'assit dans le fauteuil que celle-ci lui avait désigné. « Mais ne t'ai-je point déjà vu ?» continua Acté. « Je ne crois pas, » balbutia l'esclave. « Au stade, au cirque, au théâtre ? Oh non, je n'ai point quitté la Birème. Et tu n'as pas assisté au triomphe de Lucius ?» Un nouveau silence succéda à ses demandes et à ses réponses, échangées d'une part avec une curiosité croissante et de l'autre avec une répugnance marquée. Ce sentiment était si visible qu'Acté ne put s'y tromper. « Écoute, Sabina, lui dit-elle, je vois combien il t'en coûte de changer de maître. Je dirai à Lucius que tu ne veux pas le quitter. »« On n'en fait rien !» s'écria l'esclave tremblante. « Quand Lucius ordonne, il faut lui obéir. » Sa colère est donc bien à craindre, continua Acté en souriant. « Terrible !» répondit l'esclave avec une telle expression de crainte qu'Acté frissonna malgré elle. « Et cependant, reprit-elle, ceux qui l'entourent paraissent l'aimer. Ce jeune Sporus, « Oh, Sporus !» murmura l'esclave. En ce moment, Acté s'arrêta. Ses souvenirs lui revinrent. C'était à Sporus que ressemblait Sabina. Et cette ressemblance était si parfaite qu'étonnée de ne l'avoir pas découverte plus tôt, elle saisit les deux mains de la jeune fille et la regarda en face. « Connais-tu Sporus ?» lui dit-elle. « C'est mon frère, » balbutia l'enfant. « Et où est-il ? Il est resté à Corinthe. » En ce moment, la porte se rouvrit. Le jeune Romain parut, et Acté, qui tenait encore les deux mains de Sabina entre les siennes, sentit un frisson courir dans les veines de sa nouvelle esclave. Lucius fixa son œil bleu et perçant sur le groupe étrange qui s'offrait à sa vue, puis... après un instant de silence, « Ma bien-aimée Acté, lui dit-il, ne veux-tu pas profiter de l'aurore qui se lève pour venir respirer l'air pur du matin ?» Il y avait au fond de cette voix, toute calme et douce qu'elle était à la surface, quelque chose de vibrant et de métallique, si on peut dire, qu'Acté remarqua pour la première fois. Aussi, un sentiment instinctif qui ressemblait à la terreur pénétra-t-elle si profondément dans son âme qu'elle prit cette question pour un commandement et qu'au lieu de répondre, elle obéit. Mais ses forces ne secondèrent pas sa volonté et elle serait tombée si Lucius ne se fût élancé vers elle et ne l'eût soutenue. Elle se sentit enlever alors entre les bras de son amant avec la même facilité qu'un aigle eût fait d'une colombe, et, tremblante, sans se rendre compte du motif de son effroi, elle se laissa emporter, muette et fermant les yeux, comme si ce course eût dû aboutir à un précipice. En arrivant sur le pont du bâtiment, elle se sentit renaître, tant la brise était pure et parfumée. D'ailleurs, elle n'était plus dans les bras de Lucius. Aussi prit-elle le courage de rouvrir les yeux. En effet, elle était couchée sur le couronnement de la poupe, dans un filet à mailles d'or, arrêté d'un côté au mât et de l'autre à une petite colonne sculptée qui semblait destinée à servir de support. Lucius, adossé au mât, était debout à côté d'elle. Pendant la nuit, le vaisseau, favorisé par le vent, était sorti du golfe de Corinthe et, doublant le cap d'Hélice, avait passé entre Hyacinthe et Céphalonie. Le soleil semblait se lever derrière ces deux îles, et ses premiers rayons illuminaient la crête des montagnes qui les séparent en deux parties, si bien que le versant occidental était encore plongé dans l'ombre. Actée ignorait complètement où elle était, de sorte que, se retournant vers Lucius, « Mais est-ce encore la Grèce ?» dit-elle. « Oui, » dit Lucius, « et ce parfum qui vient à nous comme un dernier adieu, c'est celui des roses de Same et des oranges de Hyacinthe. Il n'y a pas d'hiver pour ces deux sœurs jumelles qui s'épanouissent au soleil comme des corbeilles de fleurs. Ma belle Actée veut-elle que je lui fasse bâtir un palais dans chacune de ses îles ?»« Lucius, » dit Actée, « tu m'effraies parfois en me faisant des promesses qu'un dieu seul pourrait tenir. Mais qui es-tu donc ? Et que me caches-tu ? Es-tu Jupiter tonnant ? Et crains-tu, en m'apparaissant dans ta splendeur, que ta foudre ne me dévore comme elle fait de ses mêlées ?»« Tu te trompes, » répondit Lucius en souriant, « je ne suis rien qu'un pauvre chanteur, à qui un oncle a laissé toute sa fortune à la condition que je porterai son nom. Ma seule puissance est dans mon amour, Actée, mais je sens que... soutenu par lui, j'entreprendrai les 12 travaux d'Hercule. Tu m'aimes donc ? Demanda la jeune fille. Oui, mon âme, dit Lucius. Et le Romain prononça ces paroles avec un accent si puissant et si vrai que sa maîtresse tendit les deux mains au ciel comme pour le remercier de son bonheur. Car dans ce moment, elle avait oublié tout, et regret et remords s'effaçaient de son âme comme à ses yeux, sa patrie qui disparaissait à l'horizon. Ils voguèrent ainsi pendant 6 jours, sous un ciel bleu, sur une mer bleue. Le 7e, ils aperçurent, vers la proue du vaisseau, la ville de Lécrie, bâtie par les soldats d'Ajax. Alors, doublant le promontoire d'Hercule, ils entrèrent dans le détroit de Sicile, laissant à leur gauche Messine, l'ancienne Zanclée, au port recourbé comme une faux, à leur droite Régium, à qui Denis le tyran fit demander une femme et qui lui offrit la fille du bourreau, puis, naviguant directement entre la bouillante Charybde et la bouillante Scylla, ils saluèrent d'un dernier adieu les flots d'Ionie et entrèrent dans la mer tyrrhénienne, éclairée par le volcan de Strongyle, phare éternel de la Méditerranée. 5 jours encore, ils voguèrent, tantôt à la voile, tantôt à la rame, voyant s'élever successivement devant eux Éléa, près de laquelle on distinguait encore les ruines du tombeau de Palinure, Paestum et ses 3 temples, Caprée et ses 12 palais. Puis enfin, ils entrèrent dans le golfe magnifique, au fond duquel s'élevait Néapolis, cette belle fille grecque, esclave affranchie par Rome, nonchalamment couchée au pied de son Vésuve fumant, ayant à sa droite Herculanum, Pompéi et Stabia, qui, 20 ans plus tard, devaient disparaître dans leur tombe de lave. Et à sa gauche, Pouteléi et son pont gigantesque, Baïa, tant crainte par Properse, et Bolès, qui devait bientôt rendre célèbre le parricide de Néron. À peine Lucius fut-il en vue de la ville, qu'il fit changer les voiles blanches de sa birème contre des voiles de pourpre et orner son mât d'une branche de laurier. Sans doute ce signal était convenu et annonçait la victoire, car à peine fut-il arboré qu'un grand mouvement parut s'effectuer sur le rivage et que le peuple se précipita au-devant du vaisseau olympique. Il entra dans la rade au bruit des instruments, au chant des matelots et aux applaudissements de la multitude. Un char attelé de 4 chevaux blancs attendait Lucius. Il y monta, revêtu d'une robe de pourpre, drapé d'une chlamyde bleue étoilée d'or, portant au front la couronne olympique qui était d'olivier et à la main la couronne pythique qui était de laurier. Puis on fit une brèche au mur de la ville et le triomphateur y entra comme un conquérant. Pendant toute la route, ce furent de pareilles fêtes et de semblables honneurs. À Fondi, un vieillard de 65 ans, dont la famille était aussi ancienne que Rome, et qui, après la guerre d'Afrique, avait obtenu l'ovation et 3 sacerdoces, lui avait fait préparer des jeux splendides et venait lui-même au-devant de lui pour les lui offrir. Cette démarche de la part d'un homme si considérable parut faire grande sensation parmi la suite de Lucius, qui s'augmentait de moment en moment. C'est qu'on racontait d'étranges choses sur ce vieillard. Un de ses aïeux faisait un sacrifice lorsqu'un aigle s'abattit sur la victime, lui arracha les entrailles et les emporta sur un chêne. Il lui fut alors prédit qu'un de ses descendants serait empereur, et ce descendant, disait-on, c'était Galba. Car un jour qu'il était venu avec plusieurs jeunes garçons de son âge saluer Octave, celui-ci, frappé d'une espèce de double vue momentanée, lui avait passé la main sur la joue en disant « Et toi aussi, mon enfant, tu essaieras de notre puissance. » Livy l'aimait au point qu'elle lui laissa en mourant 50 millions de sesterces, mais comme la somme était en chiffres, Tibère la réduisit à 500 000, et peut-être la haine du vieil empereur, qui savait la prédiction de l'oracle, ne serait-elle pas bornée là si Thrasyle, son astrologue, ne lui avait dit que c'était dans sa vieillesse seulement que Galba devait régner. « Qu'il vive donc, » avait-il répondu alors, « car cela ne m'importe pas. » En effet, Tibère était mort. Caligula et Claude avaient occupé le trône, César Néron était empereur, Galba avait 65 ans et rien n'annonçait qu'il touchât à la suprême puissance. Cependant, comme les successeurs de Tibère, plus rapprochés du moment de la prédiction, pouvaient ne pas avoir la même insouciance que lui, Galba portait habituellement, même pendant son sommeil, un poignard suspendu au cou par une chaîne et ne sortait jamais sans emporter avec lui 1 million de sesterces en or pour le cas où il lui faudrait fuir des licteurs ou gagner des assassins. Le vainqueur passa 2 jours chez Galba au milieu des fêtes et des triomphes. Et là, Acté fut témoin d'une précaution qu'elle n'avait jamais vu prendre à Lucius et dont elle ne pouvait se rendre compte. Des soldats qui étaient venus au-devant du triomphateur pour lui servir d'escorte veillaient la nuit dans les appartements qui entouraient sa chambre, et avant de se coucher, son amant prenait le soin étrange de mettre son épée sous le chevet de son lit. Acté n'osait l'interroger, mais elle sentait instinctivement que quelque péril le menaçait. Aussi le priait-elle instamment chaque matin de partir. Enfin, le 3e jour, il quitta Fondi, et continuant sa route triomphale à travers les villes dont il ébréchait les murailles, il parvint enfin avec un cortège qui ressemblait plutôt à l'armée d'un satrape qu'à la suite d'un simple vainqueur, à la montagne d'Albano. Arrivé au sommet, Acté jeta un cri de surprise et d'admiration. Elle venait au bout de la voie Appia de découvrir Rome dans toute son étendue et toute sa splendeur. C'est qu'en effet Rome se présentait au regard de la jeune grecque sous son plus magnifique aspect. La voie Appienne était surnommée la reine des routes comme étant la plus belle et la plus importante, car partant de la mer Tyrrhénienne, elle franchissait les Apennins, traversait la Calabre et allait aboutir à la mer Adriatique. Depuis Albano jusqu'à Rome, Elle servait de promenade publique et, selon l'habitude des anciens, qui ne voyaient dans la mort qu'un repos, et qui cherchaient pour leurs cendres les endroits les plus pittoresques et les plus fréquentés, elle était bordée de chaque côté de magnifiques tombeaux, parmi lesquels, pour son antiquité, on réputait celui d'Ascagne. Pour son souvenir héroïque, on honorait celui des Horaces, et pour sa magnificence impériale, on citait celui de Cecilia Metella. Or, ce jour-là, toute cette magnifique route était couverte de curieux venant au-devant de Lucius. Les uns montant de brillants équipages attelés de mules d'Espagne aux harnais de pourpre, les autres couchés dans des litières que portaient 8 esclaves vêtus de magnifiques pendulas et qu'accompagnaient des coureurs aux robes retroussées, et ceux-ci précédés de cavaliers numides qui soulevaient la poussière et écartaient la foule sur leur passage. Ceux-là lançaient devant eux une troupe de chiens molosses aux colliers à clous d'argent. À peine les premiers eurent-ils aperçu le vainqueur que leurs cris, répétés de bouche en bouche, volèrent vers les murs de la ville. Au même instant, et sur l'ordre d'un cavalier qui partit au galop, les promeneurs se rangèrent aux deux côtés de la voie qui, large de 36 pieds, offrit un passage facile au quadrige triomphant qui continua de s'avancer vers la ville. Un mille à peu près avant la porte, un escadron de cavaliers, composé de 500 hommes, attendait le cortège et se mit à sa tête. Il n'avait pas fait 50 pas, qu'Actée s'aperçut que les chevaux étaient ferrés en argent et que les fers mal assurés se détachaient et roulaient sur le pavé de sorte que le peuple, pour les ramasser, se précipitait avidement sous les pieds de ces animaux au risque d'être écrasé par eux. Arrivé aux portes de la ville, le char victorieux y entra au milieu des acclamations frénétiques de la multitude. Actée ne comprenait rien à cette ivresse, et cependant se laissait entraîner par elle. Elle entendait mêler le nom de César à celui de Lucius. Elle passait sous des arcs de triomphe, au milieu de rues jonchées de fleurs et embaumées d'encens. À chaque carrefour, des sacrificateurs immolaient des victimes aux autels des lards de la patrie. Elle traversait les plus magnifiques quartiers de la ville. Le grand cirque dont on avait abattu 3 arcades, le vélabre et le forum. Enfin, joignant la voie sacrée, le cortège commença de gravir le Capitole et ne s'arrêta qu'en face du temple de Jupiter. Alors Lucius descendit de son char et monta les escaliers qui conduisaient au temple. Les flamines l'attendaient aux portes et l'accompagnèrent jusqu'au pied de la statue. Arrivé là, il déposa les trophées de sa victoire sur les genoux du dieu et, prenant un stylet, il écrivit sur une plaque d'or massif que lui présenterait le grand prêtre l'inscription suivante « Lucius Domitius Claudius Néron, vainqueur à la lutte, à la course et au champ, a consacré ses 3 couronnes à Jupiter, très bon et très grand. » Au milieu des acclamations qui s'élevèrent aussitôt de tous côtés, un cri de terreur se fit entendre. Actée venait de reconnaître que le pauvre chanteur qu'elle avait suivi comme amant n'était autre que César lui-même. Chapitre 7. Cependant, au milieu de l'ivresse de son triomphe, l'empereur n'avait point oublié Actée. La jeune grecque n'était point encore revenue de la surprise mêlée d'épouvante que lui avait causé le nom et le titre de son amant, lorsqu'elle vit s'approcher d'elle 2 esclaves liburniens qui, de la part de Néron, l'invitèrent respectueusement à les suivre. Actée obéit machinalement, ignorant où on la conduisait, ne pensant même à le demander tant elle était abîmée dans cette idée terrible qu'elle était la maîtresse de cet homme dont elle n'avait jamais entendu prononcer le nom qu'avec terreur. Au bas du Capitole, entre le tabularium et le temple de la Concorde, elle trouva une litière magnifique, portée par 6 esclaves égyptiens, la poitrine ornée de plaques d'argent poli en forme de croissant, les bras et les jambes entourés d'anneaux du même métal, et assise près de la litière, Sabina, qu'elle avait perdue un instant de vue au milieu du triomphe, et qu'elle retrouvait là justement comme pour compléter tous ses souvenirs. Actée monta dans la litière, s'y coucha sur des coussins de soie et s'avança vers le palatin, accompagnée par Sabina, qui, la suivant à pied, marchait à côté d'elle et dirigeait sur sa maîtresse l'ombre d'un grand éventail en plumes de paon fixé au bout d'un roseau des Indes. Pendant 300 pas à peu près, la litière suivit sur la voie sacrée le même chemin qu'Actée avait parcouru à la suite de César. Puis bientôt, prenant à droite, elle passa entre le temple de Phébé et celui de Jupiter Stator, monta quelques degrés qui conduisaient au Palatin, puis, arrivée sur le magnifique plateau qui couronne la montagne, elle la côtoya un instant du côté qui dominait la rue Suburane et la Via Nova. Enfin, arrivée en face de la fontaine Juturne, elle s'arrêta sur le seuil d'une petite maison isolée, et aussitôt les deux Liburniens apportèrent à chaque côté de la litière un marchepied couvert d'un tapis de pourpre, afin que celle que l'empereur venait de leur donner pour maîtresse ne prit pas même la peine d'indiquer d'un signe le côté par lequel elle désirait de descendre. Actée était attendue, car la porte s'ouvrit à son approche, et lorsqu'elle l'eut franchie, se referma derrière elle sans qu'elle vît la personne chargée des fonctions de janitor. Sabina l'accompagnait seule et, sans doute, pensant qu'après une route longue et fatigante, le premier désir de sa maîtresse devait être celui de se mettre au bain, elle la conduisit à la politerium, chambre que l'on appelait ainsi d'un verbe grec qui signifie « dépouiller », mais arrivée là, Actée, toute émue et toute préoccupée encore de cette fatalité étrange qui l'avait entraînée à la suite du maître du monde, s'assit sur le banc qui régnait alentour de la salle en faisant à Sabina signe d'attendre un instant. À peine était-elle plongée dans ses rêveries que, comme si le maître invisible et puissant qu'elle s'était choisi avait craint qu'elle ne s'y abandonnât, une musique douce et sonore se fit entendre sans qu'on pût préciser l'endroit d'où elle partait. En effet, les musiciens étaient disposés de manière que toute la chambre fut sainte d'harmonie. Sans doute Néron, qui avait remarqué l'influence que prenaient sur la jeune grecque ces sons mystérieux, dont plusieurs fois dans la traversée il avait été à même de suivre les effets, avait ordonné d'avance cette distraction à des souvenirs dont il désirait de combattre la puissance. Si telle avait été sa pensée, il ne se fut point trompé dans son attente, car à peine la jeune fille eut-elle entendu ces accords, qu'elle releva doucement la tête, que les pleurs qui coulaient sur ses joues s'arrêtèrent, et qu'une dernière larme s'échappant de ses yeux trembla un instant au bout de ses longs cils comme une goutte de rosée au pistil d'une fleur, et, comme la rosée au rayon du soleil, sembla bientôt se sécher au feu du regard qu'elle avait obscurci. En même temps, une vive teinte de pourpre reparut sur ses lèvres pâlies et entr'ouvertes comme pour un sourire ou pour un baiser. Alors, Sabina s'approcha de sa maîtresse, qui, au lieu de se défendre davantage, l'aida elle-même à détacher ses vêtements, qui, les uns après les autres, tombèrent à ses pieds, la laissant nue et rougissante comme la Vénus pudique. C'était une beauté si parfaite et si virginale qui venait de se dévoiler, que l'esclave elle-même sembla rester en extase devant elle, et que, lorsqu'Actée, pour s'avancer vers la seconde chambre, posa la main sur son épaule nue, elle la sentit frémir par tout le corps et vit les joues pâles de Sabina se couvrir un instant de rougeur comme si une flamme l'eût touchée. À cette vue, Actée s'arrêta, craignant d'avoir fait mal à sa jeune suivante. Mais celle-ci, devinant le motif de son hésitation, lui saisit aussitôt la main qu'elle avait soulevée, et l'appuyant de nouveau sur son épaule, elle entra avec elle dans le tépidarium. C'était une vaste chambre carrée, au milieu de laquelle s'étendait un bassin d'eau tiède, pareil à un lac. De jeunes esclaves, la tête couronnée du roseau, de narcisse et de nymphéa, se jouaient à sa surface comme une troupe de naïades, et à peine eurent-elles aperçu Actée qu'elles poussèrent vers le bord le plus proche d'elles une conque d'ivoire incrustée de corail et de nacre. C'était une suite d'enchantements si rapides qu'Actée n'y laissait aller comme à un songe. Elle s'assit donc sur cette barque fragile, et en un instant, comme Vénus entourée de sa cour marine, elle se trouva au milieu de l'eau. Alors cette délicieuse musique qui l'avait déjà charmée se fit entendre de nouveau. Bientôt les voix des naïades mêlèrent à ses accents. Elle disait la fable d'Hylas allant puiser de l'eau sur les rivages de la Troade, et comme les nymphes du fleuve Ascanius s'appelaient le favori d'Hercule du geste et de la voix, elle tendait les bras à Actée et l'invitait en chantant à descendre au milieu d'elle. Les jeux de l'onde étaient familiers à la jeune grecque. Mille fois avec ses compagnes, elle avait traversé à la nage le golfe de Corinthe. Aussi s'élança-t-elle sans hésitation au milieu de cette mer tiède et parfumée où ses esclaves la reçurent comme leur reine. C'étaient toutes des jeunes filles choisies parmi les plus belles. Les unes avaient été enlevées au Caucase, les autres à la Gaule. Celle-ci venait de l'Inde, celle-là d'Espagne. Et cependant, au milieu de cette troupe d'élite choisie par l'amour pour la volupté, Actée semblait une déesse. Au bout d'un instant, lorsqu'elle eut glissé sur la surface de l'eau comme une sirène, lorsqu'elle eut plongé comme une naïade, lorsqu'elle se fut roulée dans ce lac factice avec la souplesse et la grâce d'un serpent, elle s'aperçut que Sabina manquait à sa cour marine, et la cherchant des yeux, elle l'aperçut assise et se cachant la tête dans sa rica. Familière et rieuse, comme un enfant, elle l'appela. Sabina tressaillit et souleva le manteau qui lui voilait le visage. Alors, avec des rires d'une expression étrange et qu'Actée ne put comprendre, d'une voix folle et railleuse, ces femmes appelèrent toutes ensemble Sabina, sortant à moitié de l'eau pour l'inviter du geste à venir les joindre. Un instant, la jeune esclave parut prête à obéir à cet appel. Quelque chose de bizarre se passait dans son âme. Ses yeux étaient ardents, sa figure brûlante. Et cependant, des larmes coulaient de ses paupières et se séchaient sur ses joues. Mais au lieu de céder à ce qui était visiblement son désir, Sabina s'élança vers la porte comme pour se soustraire à cette voluptueuse magie. Ce mouvement ne fut pas si rapide, cependant, qu'Actée n'eut le temps de sortir de l'eau et de lui barrer le passage au milieu des rires de toutes les esclaves. Alors Sabina parut près de s'évanouir, ses genoux tremblèrent, une sueur froide coula de son front. Enfin, elle pâlit si visiblement qu'Actée, craignant qu'elle ne tombât, étendit les bras vers elle et la reçut sur sa poitrine nue. Mais aussitôt, elle la repoussa en jetant un léger cri de douleur. Dans le paroxysme étrange dont l'esclave était agitée, sa bouche avait touché l'épaule de sa maîtresse et y avait imprimé une ardente morsure. Puis aussitôt, épouvantée de ce qu'elle avait fait, elle s'était élancée hors de la chambre. Au cri poussé par Actée, les esclaves étaient accourus et s'étaient groupés autour de leur maîtresse. Mais celle-ci, tremblant que Sabina ne fût punie, avait été la première à refermer cette douleur et essuyait, en s'efforçant de sourire, une ou deux gouttes de sang qui roulaient sur sa poitrine, pareilles à du corail liquide. L'accident était du reste trop léger pour causer à Acté une autre impression que celle de l'étonnement. Aussi s'avança-t-elle vers la chambre voisine, où devait se compléter le bain et qu'on appelait le caldarium. C'était une petite salle circulaire, entourée de gradins et garnie tout alentour de niches étroites, contenant chacune un siège. Un réservoir d'eau bouillante occupait le milieu de la chambre et formait une vapeur aussi épaisse que celle qui, le matin, court à la surface d'un lac. Seulement, ce brouillard enflammé était échauffé encore par un fourneau extérieur dont les flammes circulaient dans des tuyaux qui enveloppaient le caldarium de leurs bras rougis et couraient le long des parois extérieures comme le lierre contre une muraille. Lorsqu'Acté, qui n'avait point encore l'habitude de ces bains connus et pratiqués à Rome seulement, entra dans cette chambre, elle fut tellement saisie par les flots de la vapeur qui roulaient comme des nuages, qu'haletante et sans voix, elle étendit les bras et voulut appeler au secours, mais elle ne put que jeter des cris inarticulés et éclater en sanglots. Elle tenta alors de s'élancer vers la porte, mais retenue dans les bras de ses esclaves, elle se renversa en arrière en faisant signe qu'elle étouffait. Aussitôt, une de ses femmes tira une chaîne et un bouclier d'or qui fermait le plafond s'ouvrit comme une soupape et laissa pénétrer un courant d'air extérieur au milieu de cette atmosphère qui allait cesser d'être respirable. Ce fut la vie. Acté sentit sa poitrine se dilater, une faiblesse douce et pleine de langueur s'empara d'elle. Elle se laissa conduire vers un des sièges et s'assit, commençant déjà à supporter avec plus de force cette température incandescente qui semblait, au lieu du sang, faire courir dans les veines une flamme liquide. Enfin, la vapeur devint de nouveau si épaisse et si brûlante que l'on fut obligé d'avoir recours une seconde fois au bouclier d'or, et avec l'air extérieur, descendit sur les baigneuses un tel sentiment de bien-être que la jeune grecque commença à comprendre le fanatisme des dames romaines pour ce genre de bain qui, jusqu'alors, lui avait été inconnu et qu'elle avait commencé par regarder comme un supplice. Au bout d'un instant, la vapeur avait repris de nouveau son intensité, mais cette fois, au lieu de lui ouvrir un passage, on la laissa se condenser au point qu'Acté se sentit de nouveau près de défaillir. Alors deux de ses femmes s'approchèrent avec un manteau de laine écarlate dont elles lui enveloppèrent entièrement le corps, et la soulevant dans leurs bras à moitié évanouie, elles la transportèrent sur un lit de repos placé dans une chambre chauffée à une température ordinaire. Là commença pour Acté une nouvelle opération aussi étrange, mais déjà moins imprévue et moins douloureuse que celle du caldarium. Ce fut le massage, cette voluptueuse habitude que les Orientaux ont empruntée aux Romains et conservée jusqu'à nos jours. Deux nouvelles esclaves, habiles à cet exercice, commencèrent à la presser et à la pétrir jusqu'à ce que ses membres fussent devenus souples et flexibles. Alors elles lui firent craquer les unes après les autres toutes les articulations, sans douleur et sans effort. Après quoi, prenant dans de petites ampoules de cornes de rhinocéros de l'huile et des essences parfumées, elles lui en frottèrent tout le corps, puis elles l'essuyèrent d'abord avec une pure laine fine, ensuite avec la mousseline la plus douce d'Égypte, et enfin avec des peaux de cygne dont on avait arraché les plumes et auxquelles on n'avait laissé que le duvet. Pendant tout le temps qu'avait duré ce complément de sa toilette, Acté était resté, les yeux à demi fermés, plongé dans une extase langoureuse, sans voix et sans pensée, en proie à une somnolence douce et bizarre, qui lui laissait seulement la force de sentir une plénitude d'existence inconnue jusqu'alors. Non seulement sa poitrine s'était dilatée, mais encore à chaque aspiration, il lui semblait que la vie affluait en elle par tous les pores. C'était une impression physique si puissante et si absolue que non seulement elle put effacer les souvenirs passés, mais encore combattre les douleurs présentes. Dans une pareille situation, il était impossible de croire au malheur, et la vie se présentait à l'esprit de la jeune fille comme une suite d'émotions douces et charmantes, échelonnées sans forme palpable dans un horizon vague et merveilleux. Au milieu de ce demi-sommeil magnétique, de cette rêverie sans pensée, Actée entendit s'ouvrir une porte de la chambre au fond de laquelle elle était couchée. Mais comme, dans l'état bizarre où elle se trouvait, tout mouvement lui semblait une fatigue, elle ne se retourna même point, pensant que c'était quelqu'une de ses esclaves qui entrait. Elle demeura donc les yeux à demi ouverts, écoutant venir vers son lit des pas lents et mesurés, dont chacun, chose étrange, paraissait, à mesure qu'il s'approchait, retentir en elle-même. Alors elle fit avec effort un mouvement de tête, et dirigeant son regard du côté du bruit, elle vit s'avancer, majestueuse et lente, une femme entièrement revêtue du costume des matrones romaines et couverte d'une longue stole qui descendait de sa tête jusqu'à ses talons. Arrivée près du lit, cette espèce d'apparition s'arrêta, et la jeune fille sentit se fixer sur elle un regard profond et investigateur, auquel, comme à celui d'une devineresse, il lui semblait impossible de rien cacher. La femme inconnue la regarda ainsi un instant en silence, puis d'une voix basse, mais sonore cependant, et dont chaque parole pénétrait comme la lame glacée d'un poignard, jusqu'au cœur de celle à qui elle s'adressait. « Tu es, lui dit-elle, la jeune Corinthienne, qui a quitté ta patrie et ton père pour suivre l'empereur, n'est-ce pas ?» Toute la vie d'Actée, bonheur et désespoir, passé et avenir, était renfermée dans ces quelques paroles, de sorte qu'elle se sentit inondée tout à coup comme d'un flux de souvenirs. Son existence de jeune fille cueillant des fleurs sur les rives de la fontaine Pyrène, le désespoir de son vieux père lorsque le lendemain des Jeux il l'avait appelée en vain, son arrivée à Rome où s'était révélé à elle le terrible secret que lui avait caché jusque-là son impérial amant, tout cela reparut vivant derrière le voile enchanté que soulevait le bras glacé de cette femme. Actée jeta un cri, et couvrant sa figure avec ses deux mains. « Oui, oh oui, oui, s'écria-t-elle avec des sanglots, oui, je suis cette malheureuse. » Un moment de silence succéda à cette demande et à cette réponse, moment pendant lequel Actée n'osa point rouvrir les yeux, car elle devinait que le regard dominateur de cette femme continuait de peser sur elle. Enfin, elle sentit que l'inconnu lui prenait la main dont elle s'était voilé le visage, et croyant deviner dans son étreinte, toute froide et indécise qu'elle était, plus de pitié que de menace, elle se hasarda à soulever sa paupière mouillée de larmes. La femme inconnue la regardait toujours. « Écoute, continua-t-elle avec ce même accent sonore, mais cependant plus doux, le destin a d'étranges mystères. Il remet parfois aux mains d'un enfant le bonheur ou l'adversité d'un empire. Au lieu d'être envoyé par la colère des dieux, peut-être es-tu choisi par leur clémence. » Oh ! S'écria Actée, je suis coupable, mais coupable d'amour, et voilà tout. Je n'ai pas dans le cœur un sentiment mauvais. Et ne pouvant plus être heureux, je voudrais du moins voir tout le monde heureux. Mais je suis bien isolée, bien faible et bien impuissante. Indique-moi ce que je puis faire et je le ferai. D'abord, connais-tu celui auquel tu as confié ta destinée? Depuis ce matin seulement, je sais que Lucius et Néron ne sont qu'une même personne et que mon amant est l'empereur. Fille de la Grèce antique, j'ai été séduite par la beauté, par l'adresse, par la mélodie. J'ai suivi le vainqueur des Jeux, mais j'ignorais que ce fût le maître du monde. Et maintenant, reprit l'étrangère avec un regard plus fixe et une voix plus vibrante encore, tu sais que c'est Néron. Mais sais-tu ce que c'est qu'un Néron? J'ai été habitué à le regarder comme un dieu, répondit Actée. Eh bien, continua l'inconnu en s'asseyant, je vais te dire ce qu'il est. Car c'est bien le moins que la maîtresse connaisse l'amant et l'esclave le maître. Oh, que vais-je entendre ? Murmura la jeune fille. Lucius était né loin du trône. Il s'en rapprocha par une alliance, il y monta par un crime. Mais ce ne fut pas lui qui le commit, s'écria Actée. Ce fut lui qui en profita, répondit froidement l'inconnu. D'ailleurs, la tempête qui avait abattu l'arbre avait respecté le rejeton. Mais le fils alla rejoindre bientôt le père. Britannicus se coucha près de Claude. Et cette fois-ci, ce fut bien Néron qui fut le meurtrier. Oh, qui peut dire cela ? S'écria Actée. Mais qui peut porter cette terrible accusation ? Tu doutes, jeune fille ? Continua la femme inconnue, sans que son accent changeât d'expression. « Veux-tu savoir comment la chose se fit ? Je vais te le dire. » Un jour que dans une chambre voisine de celle où se tenait la cour d'Agrippine, Néron jouait avec de jeunes enfants et que parmi ceux-ci jouait aussi Britannicus, il lui ordonna d'entrer dans la chambre du repas et de chanter des vers aux convives, croyant intimider l'enfant et lui attirer les rires et les huées de ses courtisans. Britannicus reçut l'ordre et y obéit. Il entra vêtu de blanc dans la salle du triclinium et s'avançant pâle et triste au milieu de l'orgie, d'une voix émue et les larmes dans les yeux, il chanta ces vers qu'Ennius, notre vieux poète, met dans la bouche d'Astyanax. Ô mon père, ô ma patrie, ô maison de Priam, palais superbe, temple au gond retentissant, au lambris resplendissant d'or et d'ivoire, je vous ai vu tomber sous une main barbare, je vous ai vu devenir la proie des flammes. Et soudain, le rire s'arrêta pour faire place aux larmes, et si effrontée que fut l'orgie, elle se tut devant l'innocence et la douleur. Alors tout fut dit pour Britannicus. Il y avait dans les prisons de Rome une empoisonneuse célèbre et renommée pour ses crimes. Néron fit venir le tribun Pollio Julius, qui était chargé de la garder, car il hésitait encore, lui, empereur, à parler à cette femme. Le lendemain, Pollio Julius lui apporta le poison, qui fut versé dans la coupe de Britannicus par ses instituteurs eux-mêmes, mais... soit crainte, soit pitié, les meurtriers avaient reculé devant le crime. Le breuvage ne fut pas mortel. Alors, Néron l'empereur, entends-tu bien, Néron le dieu, comme tu l'appelais tout à l'heure, fit venir les empoisonneurs dans son palais, dans sa chambre, devant l'autel des dieux protecteurs du foyer, et là, il fit composer le poison. On l'essaya sur un bouc qui vécut encore 5 heures, pendant lesquelles on fit cuire et réduire la potion. Puis on la fit avaler à un sanglier, qui expira à l'instant même. Alors Néron passa dans le bain, se parfuma et mit une robe blanche, puis il vint s'asseoir, le sourire sur les lèvres, à la table voisine de celle où dînait Britannicus. Mais... interrompit Actée d'une voix tremblante. Mais si Britannicus fut réellement empoisonné, comment se fait-il que l'esclave dégustateur n'éprouva point les effets du poison ? Britannicus, dit-on, était atteint d'épilepsie depuis son enfance, et peut-être que d'un de ses accès... Oui, oui, voilà ce qu'a dit Néron. Et c'est en ceci qu'éclata son infernale prudence. Oui, toutes les boissons, tous les mets que touchait Britannicus étaient dégustés auparavant, mais on lui présenta un breuvage si chaud que l'esclave put bien le goûter, mais que l'enfant ne put le boire. Alors on versa de l'eau froide dans le verre, et c'est dans cette eau froide qu'était le poison. Oh, poison rapide et habilement préparé, car Britannicus, sans jeter un cri, sans pousser une plainte, ferma les yeux et se renversa en arrière. Quelques imprudents s'enfuirent, mais les plus adroits demeurèrent tremblants et pâles, et devinant tout. Quand un Néron qui chantait à ce moment, il se pencha sur son lit et, regardant Britannicus, « Oh, ce n'est rien, dit-il, dans un instant la vue et le sentiment lui reviendront. » Et il continua de chanter. Cependant, il avait pourvu d'avance aux apprêts funéraires. Un bûcher était dressé dans le champ de Mars, et la même nuit, le cadavre, tout marbré de taches violettes, y fut porté. Mais comme si les dieux refusaient d'être complices du fratricide, trois fois la pluie qui tombait par torrent éteignit le bûcher. Alors Néron fit couvrir le corps de poix et de résine. Une quatrième tentative fut faite, et cette fois le feu, en consumant le cadavre, sembla porter au ciel sur une colonne ardente l'esprit irrité de Britannicus. « Mais Burrus, mais Sénèque !» s'écria Actée. « Burrus, Sénèque !» reprit avec amertume la femme inconnue. « On leur vit de l'argent plein les mains et de l'or plein la bouche, et ils se turent. »« Hélas, hélas !» murmura Actée. De ce jour, continua celle à qui tous ces secrets terribles semblaient être familiers, de ce jour, Néron fut le noble fils des Anéoberbus, le digne descendant de cette race à la barbe de cuivre, au visage de fer et au cœur de plomb. De ce jour, il répudia Octavie, à qui il devait l'empire, l'exila dans la campagne où il la fit garder à vue, et, livré entièrement aux cochers, aux histrions et aux courtisanes, il commença cette vie de débauche et d'orgie, qui depuis 2 ans épouvante Rome. Car celui que tu aimes, jeune fille, ton beau vainqueur olympique, celui que tout le monde appelle son empereur, celui que les courtisans adorent comme un dieu lorsque la nuit est venue, sort de son palais déguisé en esclave et la tête coiffée d'un bonnet d'affranchi, court soit au pont Milvius, soit dans quelque taverne de la Suburane, et là, au milieu des libertins, des prostituées, des portefaix, des batteleurs, au son des cymbales d'un prêtre de Cybèle ou de la flûte d'une courtisane, le divin César chante ses exploits guerriers et amoureux. Puis, à la tête de cette troupe chaude de vin et de luxure, parcourt les rues de la ville, insultant les femmes, frappant les passants, pillant les maisons, jusqu'à ce qu'il rentre enfin au palais d'or, rapportant parfois sur son visage les traces honteuses qui a laissé le bâton infâme de quelque vengeur inconnu. Oh, « Impossible, impossible !» s'écria Actée. « Tu le calomnies !»« Tu te trompes, jeune fille. Je dis à peine la vérité. »« Mais comment ?» ne te punit-il pas de révéler de pareils secrets ? Oh, cela pourra bien m'arriver un jour, et je m'y attends. Mais pourquoi alors t'exposes-tu ainsi à sa vengeance ? Parce que je suis peut-être la seule qui ne puisse pas la fuir. Mais qui donc es-tu ? Sa mère.
« Agrippine !» s'écria Actée,
s'élançant hors du lit et tombant à genoux. « Agrippine, la fille de Germanicus, sœur, veuve et mère d'empereur. Agrippine, debout devant moi, pauvre fille de la Grèce. Oh, que me veux-tu? Parle, comment ne je t'obéirai? Aimerais cependant que tu ne m'ordonnes de cesser de l'aimer, car malgré tout ce que tu m'as dit, je l'aime toujours. Mais alors, je puis, sinon t'obéir encore, du moins mourir. » « Au contraire, enfant, reprit Agrippine, continue d'aimer César de cet amour immense et dévoué que tu avais pour Lucius, car c'est dans cet amour qu'est tout mon espoir, car il ne faut rien moins que la pureté de l'une pour combattre la corruption de l'autre. » « De l'autre ? » s'écria la jeune fille avec terreur. « César en aime-t-il donc une autre ? Tu ignores cela, enfant ? Et savais-je quelque chose ? Quand j'ai suivi Lucius, me suis-je informé de César ? Que me faisait l'empereur à moi ? C'était un simple artiste que j'aimais, à qui j'offrais ma vie, croyant qu'il pouvait me donner la sienne. Mais quelle est donc cette femme ? Une fille qui a renié son père, une épouse qui a trahi son époux, une femme fatalement belle à qui les dieux ont tout donné, excepté un cœur. Sabina Poppaea. Oh ! Oui, oui ! J'ai entendu prononcer ce nom. J'ai entendu raconter cette histoire quand j'ignorais qu'elle deviendrait la mienne. Mon père, ne sachant pas que j'étais là, la disait tout bas à un autre vieillard, ils en rougissaient tous deux. Cette femme n'avait-elle pas quitté Crispinus, son époux, pour suivre-t-on son amant ? Et son amant, à la suite d'un dîner, ne la vendit-il pas à César pour le gouvernement de la Lusitanie ? « C'est cela, c'est cela !» s'écria Agrippine. « Et il l'aime ? Il l'aime encore ?» murmura douloureusement Actée. « Oui, reprit Agrippine avec l'accent de la haine, oui, il l'aime encore, oui, il l'aime toujours. Car il y a là-dessous quelque mystère, quelque philtre, quelque hippomane maudit, comme celui qui fut donné par Césonie à Caligula. Juste Dieu, s'écria Actée, suis-je assez puni, suis-je assez malheureuse ? Moins malheureuse et moins punie que moi, reprit Agrippine, car tu étais libre de ne pas le prendre pour amant, et moi, les dieux me l'ont imposé pour fils. Eh bien, comprends-tu maintenant ce qui te reste à faire ? À m'éloigner de lui, à ne plus le voir. Garde-t'en bien, enfant, on dit qu'il t'aime. Le dit-on, est-ce vrai, le croyez-vous ? Oui. Oh, soyez béni. Eh bien, il faut donner une volonté, un but, un résultat à cet amour. Il faut éloigner de lui ce génie infernal qui le perd. Et tu sauveras Rome, l'empereur, et peut-être moi-même. Toi-même, crois-tu donc qu'il oserait ? Néron ose tout. Mais je suis insuffisante à un tel projet, moi. Tu es peut-être la seule femme assez pure pour l'accomplir. Oh non, non, mieux vaut que je parte, que je ne le revoie jamais. Le divin empereur fait demander Actée, dit d'une voix douce un jeune esclave qui venait d'ouvrir la porte. Sporus ! S'écria Actée avec étonnement. Sporus ! Murmura Agrippine en se couvrant la tête de sa stole. César attend, reprit l'esclave après un moment de silence. Va donc, dit Agrippine. Je te suis, dit Actée.